Angers, 101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elle les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Une méga-bassine, c'est un réservoir superficiel, énorme, plusieurs fois les terrains de football, rechargé par des pompages dans les nappes.
Ça s'appelle des retenues de substitution. C'est un bien commun, l'eau. C'est de l'eau. Dès lors qu'elle est arrivée dans la bassine, elle n'est utilisée que par les gestionnaires de la bassine. D'un seul coup, toute cette eau se retrouve privatisée et elle sert à de l'irrigation.
Le principe des bassines, c'est ni plus ni moins que de voler une réserve collective qui s'appelle la nappe phréatique, qui sert à l'eau potable, qui sert aux rivières, qui sert à l'irrigation, pour la mettre en surface, et à partir du moment où elle est en surface, elle n'est plus à tout le monde. Et ce dispositif pour la mettre en surface, c'est cela qu'apparaît, c'est payé par 70% d'argent public. Macron a fait un choix politique de donner l'eau à l'agriculture la plus pourrie pour satisfaire les lobbies. Quand l'État n'est pas garant de l'intérêt général, quand l'État dépasse, n'attend pas la justice, passe en force, eh bien, il y a un devoir d'insurrection, il y a un devoir de protéger nos biens communs et simplement pour nos mouflets. On en est là, face au rouleau compresseur, les citoyens se soulèvent.
Salut, c'est JBD, c'est la voix off, troisième épisode de notre série anti-méga-bassine. Les méga-bassines, ou retenues de substitution, sont des bassins creusés dans la terre et dont l'intérieur est tapissé de bâches. C'est du stockage d'eau destiné à l'agriculture industrielle du genre irrigation de maïs à nourrir les bestiaux. Cette eau, qui est un bien commun, est privatisée dès qu'elle est pompée par ces industriels de l'agriculture. L'eau des nappes phréatiques est non seulement un bien commun, mais elle est surtout vitale. Pas d'eau, pas de vie. Or, les nappes phréatiques ne sont pas inépuisables. Et en ce printemps 2022, certaines sont déjà déficitaires. La ressource s'épuise et ne se reconstitue pas suffisamment. Danger mortel est quasi imminent. Si ce modèle de pillage des nappes phréatiques se généralise, il faut alors hélas te dire qu'un jour tu vas ouvrir ton robinet et qu'aucune eau n'en coulera. Ou alors de l'eau polluée, non potable. On en parle aujourd'hui autour de la grande manif du samedi 26 mars 2022. C'était à la Rochénard, dans les Deux-Sèvres, pas loin de Niort. Et dans ces abords du marais Poitevin, il existe déjà de ces méga-bassines qui pompent l'eau de nappes phréatiques déjà basses. Et ces méga-bassines sont une sorte d'exemple, enfin pas exactement de prototype, mais que le gros syndicat d'agriculture industrielle, la FNSEA, veut répandre partout sur le territoire français, avec le soutien des gouvernements actuels et passés. Combattre le cauchemar des méga-bassines qui existent déjà, c'est combattre celles qu'on nous promet partout. Alors direction la grande manif du samedi 26 mars, contre les méga-bassines, bassines non merci, no bassaran. La presse a annoncé plus de 5000 personnes présentes à cette manif du samedi 26 mars 2022 à la Rochénard. À mon avis, c'était plutôt 6 ou 7000 manifestants. Et près de 2000 représentants des forces de l'ordre. Soit un gendarme ou policier pour 3 ou 4 manifestants. Or, le contrôle et la répression policière, ça coûte très cher aux contribuables. Romain a fait le calcul.
Salut Romain.
Salut. Bah ouais, en fait, on s'est basé sur le prix de la SEV17, donc la bassine de Mosée sur le Mignon, qui coûte 3 millions d'euros. On a fait quelques petits calculs, on sait qu'il y a plus de 2000 agents, qu'un agent est payé environ 1000 euros à la journée.
Donc de police, hein.
Policiers, etc. Donc déjà, ça fait, on n'est pas loin des 2 millions d'euros, plus le matériel, etc. On arrive à plus de 3 millions d'euros au chiffrage des forces de l'ordre, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a le même prix, le même poids financier sur ce dispositif pour protéger la bassine que le prix de la bassine, ce qui est totalement aberrant.
Donc on avait une bassine de 3 millions d'euros, finalement elle en coûte 6 en une journée quoi.
Elle en coûte 6 millions en une journée et je pense que vous pourrez, tu peux rajouter encore 1,5 million pour les autres manifs que l'on a pu faire. Donc à la fin ça va leur coûter très cher s'ils continuent, mais c'est pas à eux que ça va coûter très cher, c'est à nous.
Est-ce que tu es porte-parole de quelque chose aussi ou est-ce que tu représentes quelque chose?
Oui, je suis le président d'un mouvement de jeunesse qui s'appelle Écoavenir. Et donc forcément ce constat est terrible parce que dans l'association il y a beaucoup d'étudiants qui ne perçoivent pas de RSA parce qu'il n'y a pas de RSA pour les moins de 25 ans et qui galèrent tous les jours, qui doivent faire voir 2 voire 3 boulots pour pouvoir payer leurs études. Et quand je vois qu'on est capable de foutre des millions dans des projets écocidaires, bah ouais, ça fout les boules pour parler vulgairement, ouais, ça me fait peur vraiment.
T'es du coin toi?
Ouais, moi je suis né à La Rochenard. Donc voir autant de vie dans mon village d'enfance, c'est sûr que ça fait quelque chose. Voilà, c'est une manif festive. Je pense qu'il n'y a que du bon ce soir, ça va être super. Bravo BNM, bravo à tous les orgas, on peut que se féliciter de cette belle mobilisation.
Comment est-ce que tu as vu émerger, parce qu'ils sont pas arrivés d'un seul coup, blam, on vous met une bassine, ça a dû être graduel. Comment est-ce que tu as, toi, commencé à prendre conscience de ce truc-là?
Ça a été par des rencontres, par des dialogues. Comme on est une association, on prend pas des positions comme ça, on se questionne. Donc on a été dialogué avec des pro-bassines, même si le dialogue est extrêmement difficile. Et on a dialogué avec les anti-bassines. Et au final, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On est pour un projet écocidaire, on est pour un projet écologiquement et socialement désastreux, ou est-ce qu'on prône l'humain avant tout? On apprenait l'humain.
À rajouter à l'addition finale de cette très forte présence policière, le coût des nombreuses grenades lacrymogènes tirées par les forces de l'ordre pour disperser la manifestation en plein champ. Première fois que votre serviteur respire de la lacrymo à la campagne.
Salut Julien.
Salut.
Début de la manifestation, là, on est en train de marcher à côté d'une immense anguille qui porte ce slogan, comme le nouvel an chinois, comme un dragon chinois, mais à part que c'est pas un dragon, c'est une anguille avec des gens qui sont dedans et qui la portent. Qui es-tu, Julien?
Je suis un des porte-parole du collectif citoyen Bassine Non Merci, qui est un collectif qui se bat depuis 5 ans contre un projet de méga stockage d'eau à vocation agricole, sous la forme de grands stockages plastifiés, des cratères de plusieurs hectares, dizaines d'hectares pour certaines, remplis par les nappes phréatiques, qui sont intolérables et qui aujourd'hui ce mouvement il est national, ça y est, on a compris qu'on pouvait pas laisser faire ça.
T'es habitant du coin toi?
Ouais, j'habite à Arcey, à 15 bornes d'ici. Ouais.
Tu fais quoi comme boulot?
Je suis animateur nature, batelier, je suis un amoureux de la nature, j'emmène les gamins, les familles découvrir le marais. Guide batelier dans le marais Poitevin.
Ok, d'accord.
Ouais.
Parents paysans?
Non, parents instit. Par contre, comme beaucoup de gens, j'ai des grands-parents ouvriers et paysans, comme peut-être toute la France il y a 50 ans.
Heureusement que j'ai quelques copains militants qui m'ont parlé de cette histoire de bassine il y a une poignée de semaines. Et encore, j'étais loin du compte parce que je pensais que c'était des bassins de collecte d'eau, de ruissellement. J'avais pas compris qu'il y avait des pompes qui allaient forer une ressource irremplaçable et vitale. Irremplaçable et qui risque de pas être remplacée si on la met à sec. En fait, c'est ça le danger. C'est un danger de mort en fait qui nous guette.
C'est juste l'inverse de ce qu'il faudrait faire. En fait, le principe des bassines, c'est ni plus ni moins que de voler une réserve collective qui s'appelle la nappe phréatique, qui sert à l'eau potable, qui sert aux rivières, qui sert à l'irrigation aussi, qui conserve l'eau au frais, protégée de l'évaporation, des pollutions, etc., voire qui filtre l'eau, pour la mettre en surface, et à partir du moment où elle est en surface, elle n'est plus à tout le monde. Et ce dispositif pour la mettre en surface, c'est se l'accaparer, c'est payé par 70% d'argent public. En fait, ce projet, quel que soit le sens dans lequel on le prend, c'est juste aberrant, c'est intolérable, c'est inconcevable. Et je le dis, c'est un peu la punchline d'aujourd'hui, mais la lutte aujourd'hui, c'est clairement la coordination rurale, syndicale, fâcheux, agricole, de la FNSEA, syndicat géométrie variable, mais qui travaille toujours avec les gouvernements et qui n'a jamais bossé autant qu'avec Macron, et Macron et les lobbies, contre le reste de tous les citoyens. Ça va à l'encontre de l'intérêt général. C'est de l'accaparement avec de l'argent public d'un bien commun. C'est hallucinant.
Qui plus est, bien commun qui en plus est détruit.
Et qui est détruit et qui est vital pour tous. Et on est bien à un bon endroit pour en témoigner. On est à côté du Marais Poitevin, c'est la deuxième zone humide de France. Moi, il y a 20 ans, j'ai fait un choix de vie de venir vivre ici alors que j'étais pas là, pour que mes enfants grandissent dans un environnement sain. Et aujourd'hui, je peux plus même plus leur montrer une grenouille, quoi.
J'avais pas bien saisi l'ampleur et l'horreur du truc et l'importance d'être ici aujourd'hui dans, voilà, à la limite du 79, du 17, c'est que ça reste pour le moment entre guillemets à l'état de prototype, mais qui risque d'essaimer partout quoi. J'ai l'impression que l'enjeu il est de regarder, on vous fait un modèle ici et on va le foutre partout en France.
T'as clairement raison en fait. C'est ce sur quoi on a l'air depuis 5 ans. On dit il faut pas se leurrer, on est un territoire expérimental avant généralisation à l'ensemble du territoire national. Il y en avait plein d'indices qui corrompent corroborer. On a quatre ministres de l'Agriculture qui sont succédés, qui allaient tous dans le même sens. Il y a une solution, c'est les bassines, il faut regarder ce qui se passe en Bretouche-Charente. Donc ça se sentait, mais maintenant c'est même plus une suspicion. C'est avéré, le premier ministre Castex, le 1er février, dans Le Monde, il a déclaré qu'il y avait une solution face au réchauffement climatique, c'était les bassines, qu'ils allaient mettre 200 millions d'euros sur la table dans le cadre du plan de relance pour généraliser l'ensemble du territoire national, et que comme ils étaient emmerdés avec les recours et compagnie, eh ben, ils allaient donner des pouvoirs largement élargis, aller chez les procédures, les recours, etc., les enquêtes publiques, pour que ça puisse se faire en un an. Donc c'est clair et net, c'est un combat qui est porté localement, mais pour un intérêt national, et c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui vient. Moi, je me bats pas que pour mon marais, je me bats pour toutes les rivières de France, et les gens viennent nous aider à sauver notre bout de... Mais parce qu'ils savent aussi qui seront les prochains impactés. Il faut gagner ici pour que cette barbarie-là ne se généralise pas. Je dis, les bassines, c'est un cancer, et on doit l'empêcher de métastaser. Et je vais le dire, par tous les moyens que les citoyens jugeront utiles en fonction de leur culture, en fonction de leur courage, en fonction de leur conviction, de leur manière de faire, de leur histoire. Moi, j'ai pas à jauger. Ces bassines doivent tomber, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, rien que l'encadrement militaire des trois jours va valoir deux fois la valeur de la bassine qu'ils sont en train de vouloir sauver aujourd'hui. 3 millions d'euros fois 2, au secours. Quand on voit qu'il n'y a pas de thunes pour les hôpitaux, que la petite école, enfin, c'est des choix politiques. Macron a fait un choix politique de donner l'eau à l'agriculture la plus pourrie pour satisfaire les lobbies, d'utiliser les agro-industriels, ceux qui ont accepté de retourner toutes leurs prairies, drainer leurs marais, tous ceux qui ont déjà fait le choix de la saloperie et de l'écocide. C'est plus un sol, c'est un substrat, et c'est plus un marais. Ben ceux-là, ils sont instrumentés, mais ils sont aussi complices d'un truc inacceptable. On ne va pas accepter de se laisser crever comme ça. On ne va pas crever.
Là, très clairement, il y a une minorité de gens qui pillent et volent le commun, donc en fait le bien d'une majorité.
C'est avec la complicité de l'État.
Excuse-moi, je vais poser une question conne qui va faire ricaner la plupart des gens, surtout les anarchistes et les trucs comme ça, mais normalement, quand quelqu'un vole, je sais pas, une pomme à l'étalage, on lui tape sur les doigts, tout ça. Mais là, il se passe rien. On vole, crime monstrueux qui est commis. Et la justice là-dedans, est-ce qu'elle peut être une arme?
Alors, en fait, elle est une arme. Ça fait 5 ans qu'il y a des recours qui sont entrepris. Il y en a au moins une dizaine. On attaque sous tous les bouts sur les questions de financement public par l'agence de l'eau. Il y a 3 recours en cours sur le projet global et les autorisations de travaux. Il y a un projet en cours. Le problème, c'est que le temps judiciaire n'est pas le temps des travaux, n'est pas le temps politique. Les politiques poussent en force, débloquent l'argent, les travaux commencent et la justice est dite après. Et c'est comme ça qu'on en arrive à une situation catastrophique comme COSAD. Finalement, l'État laisse faire. Et finalement, surtout, il y a des situations ubuesques, il y a des travaux illégaux réalisés. C'est l'histoire des bassines de la Zadé Roche, dont 3 ont été foutues en l'air. Ça fait 15 ans qu'elles auraient dû être démantelées. Elles n'ont jamais eu l'autorisation de remplissage. Et chaque année, l'État donne des dérogations. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on s'autorise des modalités de désobéissance civile. Et très clairement, c'est le cas dans lequel on a le droit de l'utiliser. Quand l'État n'est pas garant de l'intérêt général, quand l'État dépasse, n'attend pas la justice, passe en force, eh bien, il y a un devoir d'insurrection, il y a un devoir de protéger nos biens communs et simplement pour nos mouflets. Et on en est là. On en est là, face au rouleau compresseur. Les citoyens de toute la France et même au-delà, aujourd'hui, il y a des Suisses, il y a des Belges, se soulèvent. Il y a des Espagnols qui ont fait le voyage pour venir.
Donc les violents, c'est pas nous.
Ça, on le sait depuis longtemps. De toute façon, notre lutte, on a fait 15 manifs avec toujours plusieurs milliers de personnes. Il n'y a jamais eu un heurt. Les seules heurts qu'il y a eu, c'est les deux dernières, du 22 septembre et du 6 novembre. Mais dans quel historique, quelles conditions d'intervention des milieux policiers? Et je le dis clairement, les militants pacifiques et les militants citoyens n'agissent qu'en défense. C'est toujours après des manœuvres hyper périlleuses qui d'ailleurs ont mis en danger les agents eux-mêmes, tellement les commandements étaient catastrophiques, qui font qu'il y a gazage et qu'au gaz, certains citoyens répondent physiquement parce qu'ils trouvent ça inacceptable. Le 22 septembre, ça commence par un gazage d'une gamine de 15 ans. Forcément que ça réagit, merde. Et ça, c'est jamais condamné. Le 22, pourquoi la bassine, elle crame? Elle crame parce que, alors que, comme aujourd'hui, on nous a restreint notre liberté, on dit qu'on n'ira pas sur les zones rouges, on n'y va pas, on reste sur le périmètre autorisé, donc on est vraiment docile. Et au premier pont, gros dispositif pour nous empêcher de passer. Alors qu'elle était déjà largement restreinte, on la restreint encore. Donc là, il y a des camarades qui disent leur désaccord et qui font reculer les flics. Mais c'est les gens qui s'opposent, en fait, sont les garants de la démocratie. C'est eux qui font que les cortèges familiaux peuvent se faire. Quand les policiers ne sont pas au service de l'intérêt général, ils les font reculer pour que les libertés fondamentales puissent avoir lieu.
Bonjour Dominique.
Bonjour.
Représentant de la LPO dans la région.
Voilà, exactement, vice-président de la LPO France, et content aujourd'hui de notre engagement et des contentieux aussi que nous menons contre ces méga projets que sont les méga bassines, qui sont extrêmement destructeurs des territoires sur le plan des écosystèmes et de la biodiversité. Conformément d'ailleurs à notre objet statutaire, nous sommes nous les premiers défenseurs, je dirais, de ces zones. Ce sont des zones qui sont en plus menacées pour leur bonne tenue en eau. Je pense au marais Poitevin, qui est un des plus grands marais d'Europe. Et en fait, c'est un stock d'eau absolument énorme que souhaitent confisquer certaines exploitations agricoles, alors pur profit personnel. Et ça, nous considérons que c'est absolument inadmissible. Et puis, au-delà des espaces naturels, avec leur cohorte d'espèces que sont les outardes canepetières, le nyctem criard, toutes les espèces de busards que nous avons sur les plaines, il y a toutes les cohortes d'espèces, faune et flore également, des zones humides, donc du marais Poitevin, qui sont concernées par cette menace. De plus, il y a quand même des aspects d'illégalité très fortes dans ces bassines, puisque d'ailleurs nous gagnons des contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers, mais également à la cour d'appel administrative de Bordeaux, car ces méga-bassines sont vraiment contraires à la politique de l'eau et aux objectifs notamment de la police de l'eau. Ces méga-bassines cochent toutes les cases qui empêchent aujourd'hui un bon retour de la qualité des eaux, que ce soit sur le plan quantitatif, sur le plan qualitatif et sur leurs incidences, je dirais, sur les écosystèmes et la biodiversité. Et puis, quand même aussi, sur le plan démocratique, poser le sujet que la confiscation de l'eau dans des proportions absolument gigantesques, par 4% d'agriculteurs irrigants, avec des subventions qui sont à 70% publiques, c'est-à-dire qu'on est sur des entreprises privées, on finance des entreprises privées avec l'argent des contribuables, alors que ce sont des projets destructeurs, eh bien, nous trouvons que ce n'est pas concevable. Et on le dit très fort, et aujourd'hui, nous sommes engagés dans toutes ces actions, dans les contentieux actuels et dans les contentieux futurs.
Bonjour Jean.
Bonjour.
Habitant de Parthenay ?
Habitant de Parthenay, dans les Deux-Sèvres, à 60 km d'ici, dans le nord du département, qui a une géologie un peu différente, mais sur la rivière Le Touet, un affluent de la Loire, évidemment, il y a aussi des projets de bassines dans la plaine du Touarçais.
Alors Jean, t'aimes pas le progrès, t'aimes pas le maïs ?
Le maïs, non, je suis pas un fan. D'ailleurs, j'avais expliqué à des irrigants il y a une quinzaine d'années que c'était quand même un peu débile de produire du maïs, de l'exporter par le port de La Rochelle vers l'Angleterre pour qu'il ne revienne en pop-corn et que l'État français ensuite finance des campagnes pour que les enfants ne mangent pas trop de maïs en grignotant n'importe comment pour des problèmes de santé. On se mord la queue, on finance pour produire et on finance pour dire « attention, faut pas en manger, trop
!» Comment est-ce que tu as vu émerger ces histoires de bassines autour de toi là ?
Oui, ça a été extrêmement lent. Cette bataille de l'eau, notamment pour protéger le marais Poitevin, à vrai dire, avec le collectif Eau 79, on a commencé ça en 1990-91. Et alors au début, il s'agissait de protéger le marais, de lutter contre des barrages, il faut le dire, débiles. 10 fois, par exemple, celui de Sivens. Et ça a été très très long à se mettre en place, à faire comprendre que l'irrigation telle qu'elle était imposée par les agri-managers était une aberration. Les premières bassines, dans les années 2004, on avait réussi à casser la moitié du projet sur la vallée de la Boutonne, 5 bassines au lieu de 11. En Charente-Maritime, il y a des bassines qui, chaque année, l'arrêté préfectoral de remplissage est cassé. Et chaque année, ils remplissent quand même. D'ailleurs, l'une a été détruite lors de la dernière manifestation. C'est un irrigant quand même qui a lui tout seul à 1500 hectares dans une dizaine de sociétés différentes et utilise pour lui tout seul 1 million de mètres cubes d'eau. C'est absolument scandaleux. Et pendant ce temps, les rivières sont en assec de plus en plus long pendant les étés. Le marais Poitevin souffre énormément et les gens doivent bien comprendre que l'eau qui est pompée dans les nappes l'hiver, puisque ces bassines sont remplies avec de l'eau propre et saine, et dans le cas de Mosée-sur-le-Mignon, juste en bordure, voire même avec un forage dans la zone de captage d'un réseau d'eau potable, eh bien, cette eau saine, elle est pompée dans la nappe. Et ce qui est certain, c'est que quand elle est pompée en hiver, elle ne sort pas au printemps, ni en été, encore moins, ce qui accentue les assecs. Donc là, c'est une bataille à la fois de longue haleine, mais qui est en train d'être gagnée dans la conscience de la population, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'eau. Pendant très longtemps, les irrigants ont laissé comprendre et entendre que les bassines se remplissaient avec l'eau de puits. Or, une bassine, ça fait en moyenne 10 mètres de profondeur, et ici, il tombe 0,80 m de pluie maximum par an, voire 600-650 cm par an. Donc ce n'est pas l'eau de pluie qui peut remplir les bassines. Et en plus, il faut compter avec l'évaporation qui est estimée selon le temps, le vent, etc., entre 10 et 20% minimum. À tel point qu'un irrigant qui a une petite bassine, c'est une petite 50 000 m3, obtient 3 autorisations préfectorales de remplissage. Mais ça ne fait pas 3 fois 50 000 m3, c'est-à-dire 150 000, ça fait 160 000 m3 d'autorisation. Donc déjà, ils pensent prendre plus, en raison notamment de cette évaporation. Voilà, on est sur des systèmes aberrants où une exploitation agricole peut consommer jusqu'à 200 000 m3. Un agri-manager comme celui que je signalais tout à l'heure, qui a 1500 hectares, peut consommer 1 million de m3 d'eau, vider les nappes, raser les haies dans les systèmes paysagers, ce qui fait que l'eau de pluie pénètre encore moins dans les sols, les vents sont encore moins stoppés, les terres encore plus asséchées. Bref, on se mord complètement la queue avec ce type d'agriculture.
C'est du pillage, c'est du vol. Il y a un commun qui est l'eau de ces nappes phréatiques, qui fait partie d'une chaîne très délicate et très compliquée. Donc si on en casse un maillon de cette chaîne, on pète toute la chaîne. Mais au-delà du côté monstrueux, c'est mais est-ce que c'est légal qu'un petit nombre s'approprie un commun qui appartient au plus grand nombre, en fait, à tout le monde? Il a été question de police de l'eau tout à l'heure. Le gars, Dominique de la LPO, oui, a dit que tout ça était aux limites de la légalité, voire même franchement illégal. Mais est-ce qu'ils ont le droit?
Alors, tout le travail des irrigants et d'une agence qui s'appelle les Coteaux de Gascogne, qui dépend de l'agence Adour-Garonne, et c'est un cabinet d'études. Tout leur travail consiste à faire rentrer dans, théoriquement, ce qui est légal, ces projets-là. C'est-à-dire qu'on commence par évaluer des niveaux d'eau avec des piézomètres et on les sous-évalue. C'est-à-dire qu'on met les cotes d'alerte quand déjà les rivières sont en souffrance et en assec. Ça, c'est le premier point de légalité qu'ils font sauter. Ensuite, ils disent « mais c'est un projet collectif ». Donc là, ici, en Deux-Sèvres, ils ont fait ce qui s'appelle une coopérative de l'eau. Et l'État délègue à cette coopérative de l'eau la gestion de l'eau. C'est-à-dire que ce sont de gros agriculteurs qui gèrent la coopérative de l'eau. Et même un petit maraîcher qui a un hectare et qui consomme 1050 m3 d'eau dépend de l'autorisation de cette coopérative de l'eau pour prendre ces 1050 m3. Quand d'autres en consomment 100 000 ou 150 000.
Parce que l'État a délégué notre droit de regard là-dessus.
L'État a délégué son droit de gestion de cette eau.
À ceux qui s'enrichissent en s'appropriant un commun.
Voilà. Et ils ont fait une coopérative. Ils disent c'est public. Ils disent ce n'est pas de l'enrichissement privé parce qu'il y a une gestion publique, l'État a un droit de regard. Sauf que tous les ans, on le constate, même quand il n'est pas possible ou que les rivières sont à sec, ils continuent de remplir les bassines et ils continuent d'irriguer. Donc là, ces bassines, ces projets sont financés pour l'installation des bassines qui sont entre 200 000 et 850 000 m3 de volume. 850 000 m3 de volume, hein, c'est énorme. Il faut, pour les remplir, à raison de 3 ou 4 pompes par bassine, plusieurs mois. Il faut 2 à 3 mois minimum pour remplir les bassines avec des pompes qui crachent quand même à 60 voire 80 m3 heure. C'est énorme comme installation. C'est financé à 70% par l'argent public, dont 50% par l'agence de l'eau. Les 20% restants, c'est la région, l'État, un tout petit peu le conseil général. Mais en plus, pour les tuyaux, parce qu'il faut aller jusque dans les champs, pour les tuyaux, ils demandent une subvention européenne qui passe là aussi par la région, c'est sur les fonds qui s'appellent FEDER. Et donc, tout cet argent public mis au service d'exploitation agricole hautement privée, les bénéfices sont doubles pour l'exploitant agricole. Il peut arroser, même quand c'est interdit pour les autres, les irrigants qui pompent directement dans les nappes ou dans les rivières en période d'insectes l'été. Et leurs bénéfices sont réinvestis sur leurs fermes, dans l'immobilier à La Rochelle ou ailleurs sur la côte, dans l'achat de terres agricoles dans des pays de l'Est ou en Espagne, etc. Enfin, autrefois c'était en Espagne, maintenant c'est dans les pays de l'Est. Et leurs terres sont valorisées, c'est-à-dire que là, récemment, il y a eu une exploitation revendue. Donc le prix des terres était 3 fois plus cher parce qu'ils sont irrigables. Et donc là, il y a appropriation, bénéfice privé en utilisant un bien commun.
Est-ce que le droit peut être aussi une arme ?
Le droit est en partie une arme. Par exemple, sur les projets de la Boutonne, on l'a utilisé. Sur les barrages contrats de plan de la fin des années 90, il y avait un contrat État-région Poitou-Charentes où il y avait 4 barrages de prévus. Juridiquement, au tribunal administratif à l'époque, on a réussi à faire tomber un barrage de 40 millions de mètres cubes en Charente-Maritime et un barrage de 10 millions de mètres cubes en Deux-Sèvres. Sur les 4 prévus, il en est resté un en Charente de 11 millions de mètres cubes et un autre en Deux-Sèvres de 13 millions de mètres cubes. Mais le problème, c'est que eux, ils montent les projets, arrive l'enquête publique au dernier moment. Donc là, la population découvre ce qui se passe. Et avant que la population ait le temps de réagir, les arrêtés pour commencer les travaux, etc., sont pris. Et donc, c'est une course en défaveur des protecteurs de l'environnement, bien sûr, de ces agri-managers. Ils ont toujours un coup d'avance. Et donc, la loi, en plus, avec les gouvernements qu'on a eus depuis Sarkozy, je dirais, est extrêmement favorable à ce type d'installation, parce que les agriculteurs disent « il faut nourrir le monde ». Et en fait, ce qu'ils nourrissent, ce sont des animaux en batterie, ce sont des méthaniseurs, c'est une part d'exportation, effectivement, qui nous revient sous forme de pop-corn ou de farine.
Ou de viande animale aussi, parce que ce maïs, il sert aussi à nourrir des bestiaux.
Oui. Et ici, alors que le... On pourrait très bien cultiver dans des maïs, mais dans des zones où il pleut suffisamment, dans des zones avec des terres suffisamment riches pour retenir l'eau. Mon père faisait ça très bien il y a 30 ans, à 20 km de Niort, hein, dans des terres fortes, comme ils disent, argileuses, et qui retiennent l'eau. Ici, dans cette région, on est sur des terres, quasiment des terres à vigne. On fait pipi, ça tombe dans la nappe, il y a beaucoup de cailloux. C'est totalement stupide de cultiver du maïs dans ces régions. C'est comme si on cultivait de la vigne dans des marais, quoi. Ah ben, ça ferait pas du bon vin.
Il y a eu, il y a quelque temps, une bassine qui a été dégradée. Je ne pense pas qu'elle ait été complètement détruite. C'était pas très loin d'ici, non ?
Oui, c'était à 6-7 km d'ici. Alors, c'est justement une bassine qui, chaque année, se remplissait. Le préfet donnait une autorisation. Nature Environnement 17, parce qu'on est juste à la limite des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime, allait au tribunal administratif, gagnait, mais la bassine était remplie. Donc, ils s'en servaient. Cette année encore, elle était remplie de façon illégale. Effectivement, le haut de la bassine a été découpé et puis sera difficilement utilisable. D'ailleurs, ce sont des bâches. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des maçonnages de digues où on creuse dans le sol, on fait une digue, on met des géoplastiques comme sur les routes pour protéger la bâche plastique finale qui va retenir l'eau. C'est un peu le même type de travaux que pour les centres d'enfouissement de déchets ultimes.
Alors évidemment, la violence c'est mal, hein, la violence c'est pas bien. Enfin, quoi que découper de la bâche, c'est pas découper une personne. Mais dans la mesure où le juridique, c'est quand même un combat de longue haleine, qu'on n'est pas obligé de gagner, qu'on entreprend parfois quand il est trop tard, je nous amène doucement sur cette question à laquelle il n'y a peut-être pas de réponse, mais de la légitimité d'action qui serait cataloguée peut-être pas légale, mais légitime finalement. Chose qui se posait quand Beauvais, il y a 20 ans, a démonté un McDo, ou quand les faucheurs volontaires d'OGM allaient faucher des cultures méphitiques.
Voilà, ou quand des copains de la conf, d'ailleurs, que je connais, étaient à Crémalville contre le super générateur. C'est le même type. Il faut à un moment que ça s'arrête. Là, je dois dire que quand la bassine a été... la bâche a été découpée, si les CRS n'avaient pas envoyé de gaz pour arrêter la manifestation qui passait devant parce que l'objectif, c'était de faire voir aux gens ce qu'était une bassine, de démonter la pompe de cette bassine que M. Giraud, le président national de la Confédération paysanne, a d'ailleurs voulu porter au ministère pour leur montrer l'aberration du système. Le ministère ne l'a pas reçu, puisqu'ils ont été arrêtés à 100 mètres du ministère, mais cette pompe n'a pas été volée, elle a été déplacée. Et si la manifestation n'avait pas été gazée, la bassine n'aurait pas été découpée. Mais comme on était arrêté là, et puis qu'il y a des jeunes qui ont été un peu échauffés, bon, bah, enfin, les gens se sont dit, c'est pas possible, quoi. Donc on va voir la bassine, on démonte le grillage, et puis des gens ont sorti leurs couteaux, et c'est une bâche, hein. Une fois qu'on a commencé à en couper 3 cm, tout le reste suit. Même si elle fait un demi-centimètre d'épaisseur, hein, mais voilà. La violence, elle vient de l'État sur ces manifestations. Il faut le dire. Je connais par cœur le département parce que c'était là où je travaillais et où je me déplaçais pour mon travail. Donc j'ai mis une heure de plus pour venir ici parce que les barrages de gendarmerie m'ont détourné avant que je puisse trouver le bon passage. Ils ont commencé par fermer le passage principal en venant de Niort.
Mais ils ont le droit de faire ça.
Ils ont pris un arrêté préfectoral. Ils ont mis les gendarmes en place. Donc le référé qui a été mis en place par les organisateurs de la manifestation a été rejeté. C'est-à-dire que l'État a le droit de dire « Je ferme la Nationale 11 un week-end entre Niort et La Rochelle, c'est-à-dire l'axe principal de la région, je le ferme. » Les gens qui veulent simplement aller à la mer aujourd'hui, à partir de Poitiers, qui veulent aller à La Rochelle, il faut qu'ils passent par des petites départementales. Et tout ça pour empêcher les manifestants de venir ici. C'est totalement débile. Ça rend les gens agressifs. Et comme m'a dit un gendarme à 500 mètres d'ici au dernier contrôle, je dis mais ça va pas, c'est n'importe quoi ce que vous faites. Bon, le gars il y pouvait rien, il avait que des gens patients et pacifistes devant lui depuis quelques heures, et moi je l'étais aussi avec un grand sourire. Et il me répond, on n'y peut rien, c'est les ordres, avec un grand sourire. J'ai dit bonne journée quoi. Hein?
La raison de notre présence ici, là, c'est parce que les bassines, il y en a juste dans ce coin, dans le 79, dans le 17, en tant que prototype, où ça a déjà commencé à essaimer partout dans la France.
Le Poitou-Charentes a été pionnier dans ce domaine de construction des bassines, parce que c'est lié à la géologie, où il y a des nappes, donc il y a des bassines dans la Vienne, en Charente-Maritime, en Deux-Sèvres notamment. C'est normal que vous n'en ayez pas entendu parler, par exemple, à Tours, parce que vous avez la Loire, l'eau passe, et... Ici, la FNSEA, les promoteurs des bassines irrigants, ont toujours essayé de faire croire à la population que c'était rempli par l'eau de pluie ou que c'est l'eau qui ruisselait et qui tombait dedans. Pas du tout. Si vous allez voir une bassine, vous verrez que c'est une construction hors sol. Elle peut aller jusqu'à 10-12 mètres au-dessus du sol et être creusée dans le sol plus ou moins profond. Ça dépend de la qualité du sol parce qu'il faut que parfois l'eau de la nappe, on est en bord de marais. Quand on est très en bord de marais Poitevin, l'eau peut remonter l'hiver et donc ça soulève la bâche. Donc, ils ne creusent pas beaucoup. Mais dans la Vienne, par exemple, bon, bah, on creuse dans le sol, point barre. Et puis on fait ces monticules, ces digues de chaque côté, et on installe la bâche. Je vous dis, sur une profondeur en général de 10 mètres, et sur des surfaces, celle de Mauzé-sur-Lumignon occupe 7 hectares de terrain avec les digues, et la surface d'eau, c'est 5 hectares. La plus grande, elle va occuper 18 hectares de terrain, dont 12 hectares d'eau. Ce sont effectivement des méga-bassines.
Ce qu'il y a ici, ce sont des prototypes ou il y en a un peu partout sur le territoire français?
Ce que veut la FNSEA, c'est que le modèle mis en place ici serve justement de prototype pour faire passer ailleurs le même système. Dans le Cher, par exemple, j'ai un copain de chez moi, là, à côté de Parthenay, qui travaille pour des copains du Cher, justement, pour leur expliquer comment ça va se passer.
D'où l'importance d'être ici, là aujourd'hui.
D'être ici nombreux, y compris avec des délégations d'un peu partout en France, pour que les gens voient et comprennent.
Oui, et que ça ne se contamine pas, quoi. Enfin,
voilà.
Que ça ne prolifère pas, plutôt.
Voilà, parce que sinon, l'ensemble des rivières et des nappes phréatiques de France vont être hyper cassées.
Bonjour, je
peux te demander ton prénom ?
Stéphane, élu régional à la région Nouvelle-Aquitaine. Stéphane Trifiletti, oui.
Nicolas Gamage, donc maire des Châteliers, conseiller régional aussi de Nouvelle-Aquitaine.
Je t'interpelle, Nicolas, parce que j'ai vu une écharpe tricolore dans le cortège. Il y a pas mal de jeunes gens habillés tout en noir et masqués. Puis c'est aussi assez bariolé. Du bleu, blanc, rouge dans le cortège. Et donc ça a attiré mon regard et mon micro vient à toi.
C'est un peu le but. Déjà, sur ma commune, on a délibéré contre ces bassines, puisque même si on n'est pas sur le bassin versant de la Sèvre-Niortaise, on est sur le bassin du Clain, où il y a un protocole qui se prépare avec un copier-coller de ce qui se fait en Deux-Sèvres. Donc voilà, le symbole de l'écharpe, il est rattaché à cette délibération aussi. Ouais. Et puis je crois que c'est important de montrer aux citoyens qui sont là, hein, c'est plusieurs milliers de personnes, que les élus, tout le monde n'est pas dans la même barque. Et voilà, faut montrer sa différence et puis porter des valeurs, nos valeurs de solidarité avec le monde paysan, des valeurs qui sont de justice dans le partage de la ressource eau, puis des valeurs qui sont pour notre jeunesse, l'avenir, qui est bien compromis si on continue sur ce chemin-là.
Je sais qu'en campagne, ça n'a pas le même sens qu'en ville, droite, gauche. Tu milites auprès d'une organisation.
J'ai ma sensibilité, oui. Je suis Europe Écologie Les Verts. Ouais. Conseil régional, on a un groupe, à la Nouvelle-Aquitaine, les écologistes solidaires et citoyens. Alors évidemment, ma commune, j'ai pas d'affichage politique en tant que tel, parce que c'est une commune rurale et ça n'a pas le même sens. Mais après, chacun connaît ma sensibilité et on essaye de développer aussi des politiques cohérentes avec nos engagements, plus divers et variés au sein du Conseil. Mais voilà, je revendique le droit de ne pas être d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron, politique libérale qui va nous mener dans le mur. On voit déjà ce qu'il en est aujourd'hui. Et là, ce projet de bassine qui risque de faire des petits et de se propager un peu partout est absolument mortifère pour et l'agriculture et la ressource en eau, la biodiversité qui est attachée. On a cette chance de vivre dans un pays où on a le droit de marquer sa différence. Je crois qu'on a un cortège bariolé, comme vous le disiez, et c'est cette richesse-là qu'il faut mettre de l'avant.
Pour lutter contre cette abomination, il peut y avoir une méthode pas souhaitable ni souhaitée, dite pour aller vite, violente. On a le droit de se poser la question de qui est violent le premier. Il y a aussi le juridique. Souvent, les choses se font en catimini et quand elles émergent de terre, il est souvent trop tard pour que la population réalise ce qui se passe, qu'on installe sous son nez. Et puis, il y a le politique.
Et puis, il y a le politique. Ouais. Ouais. Et à la région, avec mon collègue, on mène cette lutte depuis plusieurs années. Moi, c'est mon troisième mandat de maire. C'est notre deuxième mandat de conseiller régional. Donc, on ne découvre pas le dossier non plus. C'est une lutte en permanence. Là, lundi dernier, nous étions en plénière à Bordeaux. Et c'est affligeant lorsqu'on en est encore au stade où le président de la région, avec qui on était dans la majorité quand même le mandat précédent, et aujourd'hui on est dans l'opposition, nous dit qu'il faut créer des bassines pour récupérer l'eau superficielle. C'est juste un mensonge, c'est une contre-vérité qui est répandue régulièrement. Dans le même lot, on a un élu LR qui en remet une couche en disant que c'est inacceptable justement pour parler de la violence au regard d'événements qu'il y a pu y avoir, et que c'est une minorité violente. Eh bien non, j'aimerais savoir comment ils calculent le fait de minoritaire, parce que quand je vois le monde qu'il y a là, ben j'aimerais qu'ils mettent en place un référendum peut-être. On pourrait voir vraiment qui est minoritaire, en tout cas même dans le monde paysan, puisque il y a la Confédération Paysanne qui est là. C'est pas juste un mouvement citoyen, c'est un mouvement citoyen et paysan.
Stéphane, je te voyais acquiescer.
Ben oui, j'inquiète, parce que globalement on se pose la question de la souveraineté nationale, c'est quoi? Par exemple, vous parliez du bleu, blanc, rouge là. Ben, le bleu, blanc, rouge, ça veut dire liberté, égalité, fraternité.
Ben, au départ, ils avaient pensé liberté, égalité, oui, propriété, oui, puis ils n'ont pas trouvé ça sexy.
Ils n'ont pas trouvé ça sexy. Si on réinterroge notre triptyque républicain, ça veut dire quoi? Ça veut dire égalité, égalité. Est-ce qu'on est égaux devant la captation de la ressource? Ben non, très clairement, quand il y a 4% finalement des irrigants intrigants finalement qui monopolisent la ressource au détriment des 96 autres pourcents de paysans finalement, et ben on se retrouve face à une inégalité fondamentale, donc on n'est pas dans la République. Lorsqu'on parle liberté, ben on est libre heureusement de pouvoir manifester, d'avoir effectivement des sensibilités différentes pour porter un message différent. Et pour faire République justement, on a besoin de débat, et malheureusement le débat autour de la question de l'eau, il a été trop longtemps tronqué, trop longtemps éludé. Et finalement, si on a aussi ce type de manifestation, c'est parce qu'il y a un déficit démocratique énorme autour de la question de l'eau et autour de la question du partage de l'eau. Et puis fraternité, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand on regarde le code de l'environnement, qu'est-ce qu'il nous dit, le code de l'environnement? Il nous dit, il faut dédier la ressource d'abord à l'usage de l'eau potable. C'est le 1. Le 2, c'est les milieux et c'est la biodiversité. Et puis enfin, le 3, c'est les usages économiques, dont l'agriculture. Et bien là, on s'aperçoit que finalement, sur ce type de projet, on marche à l'envers. On n'est pas dans la fraternité, on est dans une minorité qui va capter la ressource. Et le débat démocratique, bah, quand il ne fonctionne pas, effectivement, il est normal que les citoyens puissent descendre dans la rue et dire à un moment donné, à travers leurs sensibilités différentes, de réinterroger un modèle, y compris un modèle agricole. Quand on regarde là, ici, autour de nous, qu'est-ce qu'on voit ? Eh ben, on voit des champs à perte de vue, il n'y a pas de haies, ou très peu de haies, il n'y a pas de biodiversité, il y a un ruissellement de l'eau qui va être énorme parce qu'on voit qu'on n'a souvent pas de couverts végétaux. Eh ben, c'est tout ça qu'il faut réinterroger à un moment donné et mettre au cœur de tout ça, non pas la souveraineté nationale, j'avais commencé par ça, mais la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que c'est aux citoyens de décider aujourd'hui et demain quel type d'alimentation ils veulent. Et moi, je préfère une alimentation bio, locale, qu'une alimentation finalement qui a besoin d'engrais et derrière qui a besoin finalement du gaz russe. Et là, on commence à avoir des travaux sur notamment qu'est-ce que ça va donner avec le dérèglement climatique. Donc on voit qu'on va aller vers des étiages beaucoup plus sévères et ça pose la question de la disponibilité de l'eau, y compris pour remplir les bassines l'hiver. C'est-à-dire qu'on dit souvent les bassines, c'est fait pour justement les utiliser l'été, on récupère l'eau l'hiver. De toute manière, on les récupère dans les nappes et on ne crée pas de la ressource. Mais derrière ça, en fait, l'occurrence de risque d'étiage et de sécheresse va augmenter. L'adaptation est très mauvaise parce que de toute manière, si on suit les protocoles, à l'heure actuelle, on dit qu'on peut remplir les bassines 8 années sur 10 si on les crée. Demain, peut-être que ça sera 5 années sur 10, puis progressivement 2 années sur 10. Ça veut dire qu'on investit massivement de l'argent public à un endroit où on ne pourra pas se servir de l'outil qu'on est en train de créer. Donc on est en train de créer un monstre qui est à la fois un monstre environnemental, un monstre social, parce que ça participe à l'augmentation finalement de la taille des exploitations. Et derrière ça, on a un véritable problème, c'est qu'il n'y a plus de paysans. Et puis enfin, un problème environnemental majeur, puisqu'on va utiliser derrière, on le sait bien, plutôt de l'agriculture intensive qui est destinée à l'exportation et à nourrir les animaux que mangent les hommes. Et c'est là le dernier scandale, c'est qu'en n'interrogeant pas finalement la production céréalière qu'on voit autour de nous, sur la finalité, où est-ce qu'on la veut, où est-ce qu'on veut qu'elle aille, finalement on se recrée des problèmes, c'est-à-dire qu'on ne répond pas aux enjeux du siècle qui sont de diminuer tout simplement par la sobriété en eau, sobriété en pesticides, sobriété, évidemment au niveau de toutes les ressources y compris énergétiques, on ne répond pas aux enjeux du temps, donc c'est une bêtise, je le disais, économique, une bêtise sociale et une bêtise environnementale.
Tu parlais de débat, mais moi il n'y a même pas de débat. Heureusement que j'ai quelques copains militants qui m'ont dit « Ouais, il y a un truc qui bouge autour des bassines. » Je pensais que c'était simplement des bassins de récupération, de privatisation d'eau, des ruissellements. Je me suis rendu compte que non, c'est pas du tout ça. C'est qu'on va casser une chaîne extrêmement fragile, vitale, parce que ces nappes phréatiques, à force de pomper dedans...
L'aberration, et on voit bien que c'est des intérêts particuliers et privés qui ont pris le pas en termes de politique publique, c'est que quand on écoute les scientifiques, les géologues, les hydrogéologues, climatologues, etc., ils nous disent que à l'horizon 20-30 ans, les précipitations vont être perturbées, moindrement d'abord. On l'a cette année, on a un déficit hydrique énorme, tant dans le remplissage de nappes, donc quand on y dit que c'est avec le surplus, quel surplus, et en tout cas cette année, c'est clair qu'il n'y en a pas, je ne vois pas comment elle pourrait être remplie, et on sait qu'à l'avenir, ça va être pire. C'est aussi un problème de sécheresse des sols. Il y a donc beaucoup de choses, l'agriculture, le modèle agricole qui est questionné, la captation d'une ressource par un petit nombre, la question environnementale évidemment, et celle de l'eau en particulier, on est parti sur une aberration, tout simplement, et il y a juste à feuilleter Le Monde ou quelques bons journaux où des scientifiques aujourd'hui témoignent pour se rendre compte qu'on va dans une impasse avec ces fausses solutions.
Tu parlais de débat, mais il n'y a même pas de débat parce qu'il n'y a même pas d'information. Enfin, hier, là, j'étais dans une soirée, j'ai dit, tiens, demain, je vais à une manif machin pour les bassines. Les gens m'ont dit, les quoi ?
Mais en fait, ça vient aussi du déficit, y compris à plus haut niveau. Hein. Tout à l'heure, Nicolas parlait de la non-compréhension des enjeux. On était lundi et mardi en plénière de la région Nouvelle-Aquitaine. La ministre Darrieussecq nous a dit quand même, pendant la dernière plénière, on peut créer de la ressource. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas la connaissance du cycle de l'eau. Et le cycle de l'eau, c'est quoi ? Ça veut dire que la quantité d'eau disponible sur Terre, elle est globalement équivalente. Oui. Donc on peut jouer au shadow autant qu'on veut. On va privatiser une partie de la ressource et on va la privatiser aussi avec de l'argent public. Parce que dans le montage financier qui est derrière, c'est 70% d'argent public pour construire effectivement ces ouvrages, et ils sont payés finalement par la facture d'eau de chacun des usagers. Donc il y a une double spoliation. Il y a une spoliation à la fois démocratique, et puis il y a une spoliation financière par rapport à ces bassines. À un moment donné, il est normal qu'il y ait réaction. Alors concernant la question initiale, la démocratie, la démocratie de l'eau, elle existe. On a ce qu'on appelle des SAGE, des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau. On a des clés, des comités locaux de l'eau. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, souvent, les élus locaux n'y vont pas. Les enjeux ne sont pas en interface avec la population. On a besoin de quoi en France? Au-delà de ça, moi, je dirais qu'on a besoin d'une démocratie qui part du bas et non pas une démocratie qui descend. C'est ça, la vraie question et l'enjeu. Parce que les instances concernant la gestion de l'eau, à l'heure actuelle, la gouvernance de l'eau, elle existe. Par contre, elle fonctionne mal.
Est-ce que vous, politique, vous avez plus d'amplitude? Est-ce que vous avez accès à des leviers ou des instances?
Oui, on a présenté une motion, donc lors de la dernière plénière du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, une motion pour les droits du fleuve Charente. Derrière votre question, il y a la question du droit. C'est à partir de quel moment, eh bien, un fleuve a le droit, par exemple, de s'écouler? Ça renvoie à des droits, évidemment, qui sont des droits de la nature et qui sont fondamentalement derrière des droits humains.
Ça
et
rejoint les problématiques soulevées par le Parlement de Loire, qui a eu, c'est doter le milieu d'une entité juridique.
Tout à fait. Peut-être ce type de mouvement va falloir progressivement qu'il réclame derrière ça ces nouveaux types de droits, parce qu'en défendant effectivement des droits à la nature, on va défendre tout simplement le bien commun, on va défendre le bien de l'humanité. Après, au niveau des leviers, bien sûr, il y a des compétences dans chacune des collectivités par rapport à la gestion de l'eau, mais ces pouvoirs sont extrêmement partagés. Et c'est vrai que pour un élu local comme moi, un élu régional, finalement, il n'est pas forcément évident de pouvoir à un moment donné interférer par rapport à ces process. Je parlais de démocratie de l'eau tout à l'heure, dans les établissements publics territoriaux de bassin, dans les SAGE, donc les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau. J'y vais, mais je suis très souvent ou quasi systématiquement en minorité face, par exemple, au puissant lobby du syndicat, je ne le citerai pas, du syndicat agricole dominant actuel en France. Donc, à un moment donné, il va falloir augmenter dans ces instances la participation citoyenne, la participation des syndicats, la participation des associations, et tout simplement redonner corps à une démocratie renforcée, parce qu'on le voit bien, il y a un déficit qui se traduit aujourd'hui par une explosion qui peut aller jusqu'à la colère, même si évidemment nous condamnons toute forme de violence, qu'elle soit violence d'État ou violence des manifestants.
Nicolas, pour illustrer très concrètement quand on fait de la politique, quels leviers on peut avoir, je pense notamment aux fonds européens. Les fonds européens, c'est la région qui les gère. Il y a un volet qui s'appelle un plan de développement rural, sur lequel il y a possibilité d'aller chercher du financement pour ce type de projet. Or, l'ancienne région Poitou-Charentes avait cloisonné dans son plan de développement rural des critères qui faisaient que ce type de projet ne pouvait pas être financé. Notre combat, ça a été ça. Depuis que ce projet est arrivé, c'est d'essayer de faire en sorte que le verrou qu'il y a grâce à ces fonds européens, il ne soit pas possible. Alors, il y a des tours de passe-passe parce que finalement, ils vont aller chercher des financements autrement et ailleurs. Le gros financeur, c'est l'Agence de l'eau, Loire-Bretagne, composée d'élus aussi, des services de l'État, etc. Et voilà, il y a toujours tout un tas de rapports de force politique, des leviers qui sont de cet ordre, en fait. C'est une illustration, mais dans le combat, ça va donc d'émotion jusqu'au levier politico-technique, je dirais, tous les volets réglementaires, etc., de recherche de financement, de voir où est-ce qu'on peut jouer pour orienter une politique qui soit pas celle-là, en tout cas.
Quand un type vole une pomme à un étalage, il se fait taper sur les doigts. Et là, on nous pille, on nous vole, on détruit. Mais ça se fait avec l'aval des gens qui sont censés nous diriger.
Il y a une espèce de défiance dans le jeu démocratique. Moi, j'aimerais que cette question-là, on puisse... Le préfet, alors, vient de changer, là, en Deux-Sèvres. J'ai demandé à plusieurs reprises de le rencontrer, parce que je me suis présenté à d'autres élections. Je crois qu'on a un poids politique assez important. Et non, pas de réponse, pas de souhait de débattre, ou en tout cas d'échanger sur cette question. C'est très regrettable. Avec une culpabilisation de ceux qui manifestent, parce que les messages qui sont passés sur les questions de minorité, de violence, etc., elles sont pas à l'image de ce qu'on peut regarder aujourd'hui. Enfin, très clairement, on est des gens responsables. J'espère qu'il n'y aura pas de débordement. Ça serait regrettable, mais d'un côté comme de l'autre aussi, parce qu'il y a une autre manifestation pas très loin, par un autre syndicat agricole,
dont on m'a dit qu'il s'était militairement équipé et organisé. J'ai vu dans la presse qu'ils préparaient la défense de de ce qu'ils appellent leur bien, leur outil de travail.
La méga bassine, on va te la démonter. Bonjour Christian.
Bonjour. Je suis crieur de rue d'une part, et j'ai eu la chance d'avoir été quelqu'un de très regardé et écouté par l'État auprès de mon domicile. D'accord. Ces derniers jours, ce qui déclenche quand même des grandes questions sur les questions des libertés d'opinion, des libertés de manifester, de la liberté des citoyens en général.
Le gag, c'est qu'il y a des milliers de personnes dans cette manifestation et que j'ai interviewé Julien Plutôt, qui est ton fils, et donc, tu es son père.
Donc je suis son père.
Voilà, je fais un choix très impartial.
Voilà, c'est la famille.
La famille. Hein. Alors qu'est-ce qui t'a valu tant d'honneur de la part de l'État?
C'est parce que certaines des réunions du collectif Bassine Non Merci se retrouvaient à travailler chez moi, puisqu'il y a des grandes pièces, je travaillais en commission et autres, donc c'était très pratique. Et il y a un parking juste en face, donc superbe pour pouvoir travailler. Quoi.
Et quelle forme a pris cette surveillance?
Vidéo et écoute, avec un système qui peut-être doit pouvoir écouter à 200 mètres à la ronde. C'est du gros matériel militaire. C'est une boîte des Vosges qui fabrique ce matériel. C'est les journalistes qui sont renseignés là-dessus. Et c'est le matériel qui est fourni à l'armée française et à l'OTAN. Vous ne trouverez pas ce matériel dans le commerce comme ça.
C'est pas des écoutes téléphoniques, c'est des écoutes de conversation.
Il y a longtemps qu'on les a, les écoutes téléphoniques. Non, là, c'est vraiment écouter une réunion de personnes. Quoi.
Alors, vous avez comploté des choses extrêmement dangereuses.
La réussite du printemps maraîchin, c'est ça qu'on travaillait. Au lieu de nous rencontrer pour travailler sur cette organisation, ils ont préféré nous espionner. Quoi. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant, très inquiétant.
C'est pas apparu d'un seul coup comme ça, ces histoires de bassines et méga bassines. Quand est-ce que tu as assisté aux premiers symptômes? Ça doit remonter à plusieurs années déjà.
Alors, ça fait, on va dire, il y a 20 ans. Ou dans le Marais, notamment sur le secteur de la Vendée, il y a eu des premières bassines installées. Et puis, il y a eu des conséquences assez étonnantes. C'est que la rivière Lotise, par exemple, ne coulait plus. Un impact direct sur les rivières, donc sur la faune, sur la biodiversité. Un autre impact aussi qu'il y a eu, ça a été les arrachages de haies. Et donc, la plaine a découvert. Si vous allez vers Fontenay-le-Comte, etc., c'est sinistre. Hein, c'est la plaine, à tout va. Ici, là, on est dans une zone qui était autrefois du bocage. Il reste encore quelques haies, mais c'est vraiment maigre par rapport à ce que ça a été.
Alors, j'y connais rien, mais ça se voit, les sols, ils sont rincés.
C'est-à-dire que par les pratiques agricoles, on sait que 70% des terres maintenant ne sont plus que des supports. C'est plus de la terre vivante, c'est plus de la terre qui nourrit. Et elle sert de support, donc ils mettent des engrais, ils mettent des pesticides pour pouvoir produire. Après, il y a des effets secondaires, vu que c'est avec des engins très lourds. Il y a un tassement des sols qui se fait. Et ça a pour conséquence que l'eau qui autrefois s'infiltrait progressivement dans le sol, là elle ne peut pas s'infiltrer. Parce que le sol est tassé, elle ruisselle vers le bas, elle part à la Sèvre, elle part à la mer et elle pollue tous les élevages de boules et d'huîtres en aval.
On se plaint qu'on a des algues vertes un peu partout.
Et qu'il y a 80% de la production des huîtres qui meurt. Et ça, c'est en permanence.
Tu disais, il y a une vingtaine d'années, tu as commencé à assister à des modifications, à des destructions de paysages, fossés, haies, voilà, c'est ce qu'on appelle le progrès, ou le remembrement. Et donc ça, c'était il y a déjà une vingtaine d'années, des symptômes...
C'était même avant, c'était juste après 45, le plan Marshall, faire venir des gros engins, ça date de ça. Et puis la théorie, il fallait nourrir la planète, soi-disant, c'était le... Et donc, il fallait des grands champs et puis faire des gros rendements.
Ce que tu veux dire, il y a une vingtaine d'années, ce truc-là s'est encore accentué.
C'est amplifié, oui, ça s'est amplifié.
Et quand est-ce que la première fois t'entends parler de bassines? D'ailleurs, en face, ils appellent pas ça des bassines.
Ça des réserves de substitution, mais ça se substitue à quoi? Non? Ça vole l'eau des nappes phréatiques, parce que beaucoup de gens pensent encore que c'est alimenté par la pluie. Il pleut sur notre région 1 mètre à 1 mètre 50 d'eau par an. Les bassines font entre 10 et 15 mètres, donc elles ne sont pas remplies par l'eau de pluie. Non, non. Il y a des sortes d'araignées, des tuyaux et différentes pompes qui sont autour des bassines et qui vont pomper dans la nappe phréatique. C'est-à-dire là, on a de l'eau qui est propre, qui est fraîche, qui est à l'abri des bactéries, etc. Mais il y en a, mais qui sont utiles. Et ils mettent ça en surface. Et là, ça se réchauffe, ça s'évapore, et il y a des bactéries qui se développent, les mouettes qui chient dedans. Pour vous dire qu'il y a un temps où les gens du club de plongée de Niort, au tout début, s'entraînaient dans les bassines. Ça leur faisait une profondeur très intéressante. Au bout d'un moment, ils ont arrêté parce qu'ils étaient en train de s'empoisonner. Et on arrose les champs avec de l'eau dégueulasse. Et on le fait au détriment de l'ensemble des gens.
Cette ressource-là, ces nappes, elles ne sont pas inépuisables. À force de pomper dedans, on va finir par les épuiser.
Quand ceux qui gèrent l'eau entre le marais mouillé et le marais desséché à la mer, quand on respectait le fait qu'il y ait un marais mouillé, c'est-à-dire inondé pendant quelques mois de l'année, là, les nappes, le marais mouillé avait son écosystème de marais et l'eau avait le temps de s'infiltrer dans le sol pour recharger les nappes phréatiques. Et là, les différentes constatations scientifiques montrent que les nappes phréatiques se rechargent très peu, très peu. Et là, ils ont, en pleine saison où ils avaient l'intention de pomper, ils ont été obligés d'arrêter parce qu'on est en dessous du niveau inférieur. Ce qui veut dire que cet été...
Ils ont déjà tapé dedans.
Ils ont tapé dedans, oui. Et cet été, on peut se retrouver sur tout le bassin, du Niortais jusqu'au Marais, on peut se retrouver en difficulté d'alimentation en eau potable. Ou alors, on est obligé de faire appel au Maine-et-Loire, d'autres départements qui nous envoient de l'eau potable. Il y a l'enjeu de l'eau pour tout le monde et il y a l'enjeu de l'alimentation saine pour tout le monde et il y a l'enjeu de la biodiversité et de l'avenir de la planète qui est là. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se mobilisent venant d'horizons très très différents, des pêcheurs.
Rappelle-moi le nom technique là, des bassines, des méga-bassines, ils appellent ça comment? Des bassins de...
Des réserves de substitution. En fait, c'est du vol de bonne eau pour en faire de l'eau dégueulasse.
Et à partir de quand tu as commencé à entendre parler de ce truc-là?
Quand je suis arrivé dans le marais, quoi, il y a 30-40 ans, il y avait déjà cette question de gestion du marais mouillé, du marais desséché. Le marais desséché, c'est celui qui est la grande plaine céréalière, qui est le plus près de la mer. Et il y a des canaux avec de l'eau qui circule, mais on fait en sorte que jamais l'eau n'inonde les terres. Et sur le pourtour, il y a ce qu'on appelle le marais mouillé, où là, quand il y a plein d'eau qui arrive des bassins versants et qu'on ne peut pas l'envoyer à la mer, à ce moment-là, ça reste sur le marais mouillé. Ça sert de réservoir. Et avant, l'été, on renvoyait de l'eau, s'il y avait besoin, sur la plaine, sur le marais desséché. Mais ça, aujourd'hui, ce sont les mêmes paysans qui gèrent le marais desséché et le marais mouillé, et ils veulent plus d'eau sur le marais mouillé. Donc, c'est pour ça qu'ils l'évacuent à toute vitesse. En 3 jours, il n'y a plus d'eau. Voilà.
En ce qui concerne la manifestation de cet après-midi, bon voilà, qui était très conviviale, très bon enfant, machin, et puis d'un seul coup, je me suis retrouvé dans un nuage de gaz,
oui,
lacrymogène.
Oui. C'est la réponse démocratique de l'État aux gens qui veulent qu'on réfléchisse ensemble à l'utilisation de l'eau, à l'agriculture et à un projet de territoire. C'est leur réponse. Blocage. Alors, la réponse de certains d'entre nous, c'est pas la réponse de tous. C'est notamment beaucoup de jeunes qui sont dans une colère immense et qui se disent, mais comment je vais vivre dans 20 ans? Que vont vivre mes gamins? Et donc, ils font des actes symboliques de désobéissance civile en démontant certaines pompes de très gros agriculteurs qui pillent l'eau des gens. Alors, et là, les forces mobiles interviennent pour protéger ce bien privé au détriment du bien commun de l'eau. Ça va étonner parce que, on va dire, image de violence, etc. La violence, elle est vraiment de l'autre côté. Je parle pas des gaz, etc. La violence, c'est le fait de confisquer l'eau pour quelques-uns au détriment de tout le monde. C'est une violence innommable, surtout dans un contexte de changement climatique très inquiétant pour l'ensemble des personnes.
Donc la situation ne prête pas à rire, évidemment. Cela dit, tu nous as fait observer quand même qu'on avait assisté à une tentative, une expérimentation d'élevage de poulets en plein air.
Oui, ça c'est la petite blague. D'autant que je suis le fils d'un paysan qui faisait de l'élevage de poulets. Et pas en plein air à l'époque. Voilà. Donc ça c'est un rappel de ma vie familiale. C'était la blague. Une autre blague, c'est le fait qu'on ait deux préfets successifs qui s'appellent Emmanuel. Et ça m'a fait penser à dire, on a des Emmanuel pour des histoires d'eau. Un peu de décalage, ça fait du bien et ça permet aux uns et aux autres de se détendre et peut-être d'aller vers des dialogues constructifs.
Voilà les amis, c'est ici que se termine ce compte-rendu de la grande manif anti-mégabassine du samedi 26 mars 2022 à La Rochénard dans les Deux-Sèvres, pas très loin de Niort. Je te le redis, réfléchis bien à ce qui se passe déjà dans la France de ce printemps 2022. Pense bien à ce jour très proche où l'eau potable cessera de couler de ton robinet. Tout ça parce que les nappes phréatiques auront été vidées au nom d'une agriculture industrielle destructrice et à courte vue. Et quand il n'y aura plus d'eau potable au robinet, Nestlé ou Coca-Cola ou Vittel seront là pour t'en vendre de l'eau. Si t'as les moyens d'en acheter, bien sûr, dans la limite des stocks disponibles. Parce que ça, c'est pas dit qu'il y en ait pour tout le monde. Pour plus d'informations, recherche Bassine Non Merci sur Internet. Bassine Non Merci. Cette émission et plein d'autres sont en écoute sur notre site, polymixetlavoixoff.com, où il est aussi possible de s'abonner au podcast. Avant qu'on se retrouve très bientôt sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. www.radio-g.fr. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences.